Chapitre 32. Trajet hivernal. Deuxième partie. La nuit tomba à l'heure de pointe du métro. Bien moins frénétique que celle de Tokyo, sans Shiroshi-san, qui s'efforce de faire entrer encore quelques passagers alors même que les portes se referment. Kumiko regarda la brume saumon du crépuscule depuis un quai venteux de la Central Line. Colin, appuyé contre un distributeur cassé aux vitrines poussiéreuses et fendues. « C'est l'heure, » dit-il, « et essaie de ne pas te faire voir entre Bond Street et Oxford Circus. Mais je dois payer quand je sors du métro, non ?»«
Certains s'abstiennent, » dit-il en relevant sa mèche d'un geste de la tête.
Elle partit vers les escaliers. Elle n'avait plus besoin qu'on lui indique par où passer pour rejoindre le quai d'en face. Elle avait de nouveau les pieds gelés et elle repensa aux bottes allemandes doublées en laine dans le placard de sa chambre chez Swain. Elle avait choisi les chaussettes à orteils en caoutchouc sous les talons hauts français en espérant tromper Dick et lui faire croire qu'elle ne s'enfuirait pas. Mais elle le regrettait chaque fois que le froid traversait les minces semelles. Dans le tunnel vers l'autre quai, elle relâcha sa prise sur le boîtier et Colin disparut. Du carrelage blanc et usé avec une bande verte décorative recouvrait les murs. Elle sortit la main de sa poche et fit glisser les doigts le long des carreaux émeraudes en repensant à Sally, au Finlandais, et à l'odeur différente de l'hiver dans l'étendue. Jusqu'à ce que le premier Dracula surgisse devant elle et qu'elle se retrouve aussitôt cernée de près par 4 imperméables noirs et 4 visages ultra pâles et émaciés. « Tiens, tiens !» dit le premier. Mignonne. Ils étaient les yeux dans les yeux, Kumiko et le Dracula. Son haleine sentait le tabac. La foule du soir continua à passer autour d'eux, pour la plupart emmitouflés dans de la laine sombre. « Wow !» dit l'un des Draculas près d'elle. « Visez-moi ça !» Il leva l'appareil masse néothèque dans sa main gantée de cuir noir et fendillé. « Un projecteur, pas vrai ? Ça déchire, la bridée !» Les doigts de Kumiko plongèrent dans sa poche et traversèrent le trou créé par le rasoir. Le garçon ricana. « Arrache-lui son sac !» dit un autre. « Vas-y, règle !» Une main jaillit et coupa la lanière en cuir. Le premier Dracula le rattrapa, enroula la courroie pendante d'un geste maîtrisé et le rangea sous son imperméable. « Merci !»« Matez ça ! Ah, elle en a dans le pantalon !» éclat de rire pendant qu'elle fouillait sous ses pulls. Le ruban adhésif dont elle s'était servie lui fit mal au ventre lorsqu'elle arracha le pistolet à deux mains et le colla contre la joue du garçon qui tenait l'appareil. Un instant suspendu. Puis, les trois autres se mirent à courir à toute vitesse vers les escaliers à l'opposé du tunnel, leurs bottes noires à lacets glissant sur la neige fondue, leurs longs manteaux battant comme des ailes. Une femme cria. Et ils restèrent figés ainsi, Kumiko et le Dracula, le bout du pistolet appuyé contre la pommette gauche du garçon. Le bras de Kumiko commença à trembler. Elle regarda le Dracula dans les yeux, des yeux marrons écarquillés par une terreur simple et ancestrale. Le Dracula contemplait le masque de la mère de Kumiko. Quelque chose frappa le sol à ses pieds, le boîtier de Colin. « Dégage !» dit-elle. Le Dracula sursauta, ouvrit la bouche, étouffa un sanglot et s'écarta de larmes. Kumiko baissa les yeux et vit l'appareil Maas Neotech dans une flaque de neige fondue, grise. À ses côtés se trouvait le rectangle argenté d'une lame de rasoir industriel. Lorsqu'elle ramassa le module, elle vit que son boîtier était cassé. Elle le secoua pour retirer l'humidité de la fente et le serra fort dans sa paume. Le tunnel était désormais désert. Colin ne venait pas. Le pistolet Walther à air comprimé de Swain pesait lourd, immense, dans son autre main. Elle s'approcha d'une poubelle rectangulaire scellée au mur carrelé et enfonça l'arme entre une barquette alimentaire en polystyrène tachée de graisse et quelques feuillets de newsfax soigneusement pliés. Elle s'éloigna, puis revint chercher le fax. Elle monta les escaliers. Quelqu'un la montra du doigt sur la plateforme, mais le train arriva dans son antique fracas, puis les portes se refermèrent derrière elle. Elle suivit les instructions de Colin. White City et Shepherd's Bush, Holland Park. Elle leva le fax quand le métro ralentit à Notting Hill. Le roi, très âgé, était mourant, et elle le laissa dans cette position jusqu'à Bond Street. La station d'Oxford Circus était bondée et la foule lui offrait un abri salutaire. Colin lui avait dit qu'on pouvait quitter la station sans payer. Elle y songea, puis l'estima possible, même s'il fallait être rapide et s'y prendre au bon moment. En réalité, c'était le seul moyen. Les Jack Dracula avaient emporté son sac à main qui contenait sa puce de la Mitsubank et ses quelques pièces anglaises. Elle resta 10 minutes à regarder les passagers insérer leurs billets en plastique jaune dans les tourniquets automatiques, prit une profonde inspiration et fonça. Elle sauta par-dessus, entendit un cri et un grand éclat de rire dans son dos, puis elle se remit à courir. Lorsqu'elle atteignit les portes au sommet de l'escalier, elle vit Brixton Road, sorte de Shinjuku défraîchi, rempli d'étals culinaires fumants.